L'aréole, bâtie sur un éperon rocheux et dominée elle-même par un cercle de vertes collines, surplombait la Garonne. Découpée sur le ciel pâlissant, serrée dans ses remparts de bonnes pierres ocre que dorait le soleil couchant, montrant ses clochers, les tours de son château, la haute charpente de son hôtel de ville aux clochetons ajourés, et tous ses toits de tuiles rouges pressés les uns contre les autres, elle ressemblait aux miniatures qui représentaient Jérusalem dans les livres d'heures. Une jolie ville, vraiment. En outre, sa position élevée en faisait une idéale place de guerre. Le comte de Kent n'était pas sot de l'avoir choisi pour s'y enfermer. Il ne serait pas facile d'enlever cette forteresse. L'armée s'était arrêtée, attendant les ordres. Mais Monseigneur de Valois n'en donnait pas. Il boudait. Que le connétable, que les maréchaux prissent les décisions qui leur paraîtraient bonnes, lui, n'étant pas lieutenant du roi, ne se chargeait plus d'aucune responsabilité.
« Venez, Alphonse, allons-nous rafraîchir, » dit-il au cousin d'Espagne.
Le connétable tournait la tête dans son home pour saisir ce que lui disaient ses chefs de bannière. Il envoya le comte de Boulogne en reconnaissance. Boulogne revint au bout d'une heure, ayant décrit le tour de la ville du côté des collines. Toutes les portes étaient closes, et la garnison ne donnait aucun signe de sortie. On décida donc de camper là, et les bannières s'installèrent un peu comme elles voulurent. Les vignes, qui lançaient leurs sarments entre les arbres et les hauts échalas, constituaient d'agréables abris en forme de tonnelles. L'armée était fourbue et s'endormit dans le clair crépuscule avec l'apparition des premières étoiles. Le jeune comte de Kent ne put résister à la tentation de l'audace. Après une insomnieuse nuit dont il avait trompé la tente en jouant au Tremrel avec ses écuyers, il manda le sénéchal Basset, lui commanda de faire armer sa chevalerie et, avant l'aube, sans sonner trompe, sortit de la ville par une poterne basse. Les Français, ronflant dans les vignes, ne s'éveillèrent que lorsque le galop des chevaliers gascons fut sur eux. Ils dressèrent des têtes étonnées pour les rabaisser aussitôt et voir les sabots de la charge leur passer à ras du front. Edmond de Kent et ses compagnons s'en donnaient à plaisir parmi ces groupes d'hommes ensommeillés, taillant de l'épée, frappant de leur masse d'armes, abattant les lourds fléaux plombés sur des jambes nues, des côtes que ne protégeaient ni maille ni cuirasse. On entendait les os craquer et un chemin de hurlements s'ouvrait dans le camp français. Les tentes de quelques grands seigneurs s'écroulaient, mais bientôt une rude voix domina la mêlée qui criait « À moi, Châtillon !» et la bannière du connétable, de gueule à trois pales de verre au chef d'or, un dragon pour cimier, deux lions d'or pour tenir, flotta dans le soleil levant. C'était le vieux gaucher qui, de son campement sagement établi en retrait, accourait à la rescousse avec ses vassaux. Les appels « Artois en avant, à moi à Valois !» répondirent à droite et à gauche. À demi équipés, certains à cheval, d'autres à pied, les chevaliers se ruaient à l'adversaire. Le camp était trop vaste, trop disséminé, et les chevaliers français trop nombreux pour que le comte de Kent pût poursuivre longtemps ses ravages. Déjà, les Gascons voyaient s'amorcer devant eux un mouvement de tenaille, Kent n'eut que le temps de faire tourner bride et de regagner au galop les portes de l'aréole où il s'engouffra. Et puis, ayant adressé compliments à chacun et son armure délacée, il s'en alla dormir, l'honneur sauf. La consternation régnait dans le camp français où l'on entendait gémir les blessés. Parmi les morts, dont le nombre s'élevait à près de 60, se trouvaient Jean des Barres, l'un des maréchaux, et le comte de Boulogne, commandant de l'avant-garde. On déplorait que ces deux seigneurs, vaillants hommes de guerre, eussent rencontré une fin aussi soudaine et absurde, assommés à leur réveil. Mais la prouesse de Kent inspira le respect. Charles de Valois lui-même, qui la veille encore déclarait qu'il ne ferait qu'une bouchée de ce jeune homme s'il le rencontrait en Champclos, prit un air pénétré, presque glorieux, pour dire « Eh, messire, il est mon neveu, ne le mettez point !» Et, oubliant du coup ses blessures d'amour-propre, ses malaises et le poids de la saison, il se mit, après que de somptueux honneurs funèbres eurent été rendus au maréchal des Barres, à préparer le siège de la ville. Il y montra autant d'activité que de compétence, car, tout gros, vaniteux qu'il fût, il n'en était pas moins remarquable homme de guerre. Toutes les routes d'accès à l'aréole furent coupées, la région surveillée par des postes disposés en profondeur. Des fossés, remblais et autres ouvrages de terre furent entrepris à petite distance des murs pour y mettre les archers à l'abri. On commença de construire aux endroits les plus propices des plateformes pour y installer les bouches à poudre. En même temps, on élevait des échafaudages destinés aux arbalétriers. Monseigneur de Valois était partout sur les chantiers, inspectant, ordonnant, poussant à l'œuvre. En retrait dans l'amphithéâtre des collines, les chevaliers avaient fait dresser les trèfles ronds au sommet desquels flottaient les bannières. La tente de Charles de Valois, placée de façon à dominer le camp et la cité assiégée, semblait un vrai château de toile brodée. Le 30 août, Valois reçut enfin sa commission tant attendue. Son humeur alors acheva de se transformer, et il parut ne plus faire doute que pour lui, la guerre fut comme déjà gagnée. Deux jours plus tard, Mathieu de Try, le maréchal survivant, Pierre de Cunières et Alphonse d'Espagne, précédés de leurs busines sonnantes et de la bannière blanche des parlementaires, s'avancèrent jusqu'au pied des murs de l'Aréole. Pour faire sommation au comte de Kent, d'ordre du puissant et haut seigneur Charles, comte de Valois, lieutenant du roi de France en Gascogne et Aquitaine, d'avoir à se rendre, et remettre en leurs mains tout le duché, pour faute de foi et hommage non rendu. À quoi le sénéchal Basset, se hissant sur la pointe des pieds pour apparaître au créneau, répondit, d'ordre du haut et puissant seigneur Edmond, comte de Kent, lieutenant du roi d'Angleterre en Aquitaine et Gascogne, que la sommation était irrecevable, et que le comte ne quitterait la ville ni ne remettrait le duché, sauf à être délogé par la force. La déclaration de siège ayant été faite dans les règles, chacun retourna à ses tâches.